RFI. Ça peut paraître à beaucoup d'entre vous bien anecdotique, étrange ou secondaire, mais je dois admettre que j'ai une sorte de passion pour le débat autour d'Uberpop qui se déroule en ce moment, en France notamment. Je crois réellement que la manière dont l'État français va gérer ce conflit, qui schématiquement oppose les taxis parisiens à une firme américaine dont le métier est de mettre en relation des chauffeurs privés ou amateurs avec des clients, donc la manière dont l'État français va gérer ce conflit est un test pour l'avenir à mes yeux. Ce que Uber a fait, c'est capitaliser sur la mise en relation potentielle de chauffeurs et de clients. Cette mise en relation est bien sûr permise par l'internet et la mobilité du téléphone intelligent. Des dizaines de services existants ou futurs tentent ou vont tenter de capitaliser sur cette mise en relation. Ils vont ou ont tous posé des problèmes à des structures existantes. L'État français, les États du monde doivent comprendre maintenant que leur rôle n'est plus de préserver des équilibres du passé, mais bien d'aménager l'avenir, l'aménager en s'assurant que ceux qui perdent soient compensés et que ceux qui misent sur les réalités nouvelles n'abusent pas de leur position. Toutes les licences, tous les privilèges, toutes les chasses gardées vont être concurrencées par la mise en réseau des individus. Si on veut combattre l'ubérisation, ce sera en favorisant l'émergence de concurrents et en ouvrant les vannes qu'on y parviendra. Combien de temps encore nos élites auront le mauvais réflexe, les mauvaises réactions fruit d'une incompréhension des forces en mouvement? Combien de temps encore seront-elles déconnectées? Prendront-elles en otage l'avenir au lieu de l'accompagner et de l'encadrer? Le vivre ensemble se construit maintenant, d'autant plus que si le génie entrepreneur du futur, Elon Musk, a encore une fois raison, dans un futur relativement proche, tous les véhicules seront conduits par des robots, c'est-à-dire des ordinateurs et des logiciels. Va-t-on interdire les ordinateurs et les logiciels pour protéger l'emploi?
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous, La déconnexion des élites, c'est le titre du livre que signe notre invitée aujourd'hui, la journaliste Laure Belot. On la retrouve dans un instant après la chronique étreinte digitale de Marie-Catherine Beuth et juste avant, dans une grosse quarantaine de minutes, la chronique de Francis Pisani qui s'intéresse aujourd'hui à un représentant de l'élite connectée.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Marie-Catherine Beuth.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Tu veux partager avec nous aujourd'hui une sorte de triste nouvelle?
En effet, on a appris fin juin que l'application de news mobile Circa allait cesser son activité. Circa s'est lancée en 2012 et proposait de consommer de l'information différemment, uniquement et d'abord sur son téléphone mobile. À partir de là, l'information était découpée en petits résumés, ce qui permettait de remonter plus ou moins rapidement dans le flux d'informations. Quand Circa s'est lancé, c'était une grande première. Il y avait très peu de médias qui faisaient de l'information adaptée au mobile. Et dans son sillage, on a vu fleurir des applications de grignotage, un petit peu comme Sumly, devenu ensuite le Yahoo News Digest. Beaucoup d'offres aussi autour de la curation, c'est-à-dire de la sélection éditoriale, et autour de cette idée de s'abonner à certaines actualités comme on s'abonne à certaines personnes sur Twitter. Eh bien, cette belle aventure vient de s'arrêter. Son fondateur l'a annoncé sur un post partagé sur Medium.
Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de comprendre cet échec?
La principale raison de cet arrêt plus qu'un échec, c'est que Circa n'a pas trouvé les moyens de continuer à se financer et donc de continuer à offrir son service. Ils cherchent maintenant peut-être à revendre leur technologie, mais l'aventure ou la fin précoce de Circa rappelle ainsi un petit peu le dessin qui avait été celui du site d'information technologique GigaHome. Pareil, qui avait pendant un certain temps défriché un secteur, celui des blogs d'information dédiés aux nouvelles technologies, et puis qui, faute de moyens financiers, avait dû mettre fin à ses activités. On peut aussi rapprocher ça à la revente du pure player Recode, un autre site d'information technologique qui, peu après son lancement, vient d'annoncer qu'il allait se revendre au groupe Vox Media. Il y a un problème de financement pour toutes ces belles startups dans les médias.
Un problème de financement ou un problème également de modèle avec le choix, comme des startups, de fonctionner avec des investisseurs?
C'est la grande question. Il y a eu depuis, encore une fois, presque 2 ans, beaucoup d'argent venant du capital risque afflué vers le monde des médias. On a cru pendant un certain temps que les investisseurs trouvaient très intéressant de financer plus d'informations. On réalise peut-être aujourd'hui que ce qui les intéresse avant tout, c'est des retours sur investissement et que donc le rythme d'une start-up média qui prend peut-être plus de temps à s'installer qu'une application mobile de photos ou un réseau social, eh bien ce n'est peut-être pas compatible avec ce modèle de financement qui veut voir des grands résultats au bout de 2 ou 3 ans.
Merci Marie-Catherine Beut. On peut retrouver toutes tes chroniques sur ton blog Étreinte Digitale hébergé par Le Figaro. On peut aussi te lire sur ton blog de l'Atelier des médias. À bientôt.
http://atelier.rfi.fr.
Il y a une audience sur Internet aujourd'hui.
Imaginez beaucoup de choses, et notamment une taxe sur les clics sur Internet.
Nous sommes en train de vivre un changement de modèle économique.
Et Internet est le réseau qui bouscule, parce qu'en permanence, on parle de tout.
Le déluge de communication que nous avons a tendance à étouffer un peu l'information.
L'Atelier des médias.
Septembre 2013, un bijoutier niçois tue son agresseur et reçoit en 5 jours plus d'1 million de soutiens sur Facebook. Massif, ce mouvement numérique a laissé l'appareil d'État comme une poule avec un couteau, avoue aujourd'hui un membre d'un cabinet ministériel. Devant ces nouveaux usages en ligne, ajoute-t-il, nous avons du mal à formuler des réponses. C'est ainsi que commence un article titré « Les élites débordées par le numérique » publié par Le Monde le 26 décembre 2013. Devant le flot de lecteurs, des centaines de milliers de commentaires, de tweets, de réactions, de témoignages suscités par ce texte, son auteur s'est demandé quel nœud social, historique, relationnel elle avait bien pu toucher. Elle a choisi de répondre à cette question dans un livre enquête, « La déconnexion des élites » publié il y a peu aux éditions des Arènes. Bonjour Laure Belot.
Bonjour.
J'ai résumé la genèse de votre livre de manière fidèle.
C'est parfait.
Expliquez-nous alors ce qui s'est passé.
Alors ce qui s'est passé, je m'intéresse à tout ce qui est émergent dans la société. À chaque fois, j'essaie de faire des enquêtes pour essayer de comprendre ce qui se passe. J'ai commencé par Le Bon Coin, j'ai fait aussi quelque chose sur le Big Data. Et à chaque fois que je vois quelque chose qui émerge, je me tourne, et j'ai la chance puisque je travaille dans un journal où on a accès justement à ces gens qui ont le savoir, je me tourne vers des experts pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour Le Bon Coin, je découvre qu'il y a 17 millions de personnes qui sont donc qui utilisent cette plateforme, mais que les gens que je contacte, qui sont des philosophes, des économistes, des intellectuels, ne connaissent pas la plateforme. Pour moi, c'est un signal. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a 17 millions de personnes par mois qui s'intéressent à quelque chose, un site internet, qui s'en servent, et qu'une personne, une frange sociétale, qui appartient au haut de la pyramide sociétale, ne le sait pas.
C'est-à-dire que dans votre démarche journalistique, donc vous décidez de lancer une enquête sur Le Bon Coin, vous allez chercher des sociologues, des observateurs de la société pour animer, pour donner un peu de relief à votre papier. Et c'est une démarche d'ailleurs qu'on retrouve tout au long de votre livre et qui m'a intéressé. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de vous appuyer sur des travaux déjà établis par tel ou tel chercheur. Vous allez solliciter les chercheurs. Et votre constat, c'est que sur des problématiques qui vous semble essentiel, comme le développement d'un site qui va concurrencer le géant américain eBay, donc le développement du Bon Coin en France, vous n'avez personne, vous avez des personnes même qui vous répondent plutôt mal, quoi, qui vous disent ça n'intéresse pas.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils concurrencent eBay, mais ils concurrencent aussi Pôle emploi dans la recherche d'emploi, ils concurrencent aussi les agences immobilières parce que les gens se sont mis à mettre directement leur appartement en ligne, et même maintenant les agences les mettent massivement en ligne.
Presque toutes les annonces immobilières sur Le Bon Coin, ce sont des agences maintenant.
Voilà. Enfin, disons qu'il y en a toujours 200 000 agences, il y a 20 000, 30 000 qui sont des particuliers, mais ça veut dire que les agences ont compris qu'il fallait passer maintenant par Le Bon Coin qui était une plage de marché, et ça a été la même chose aussi pour les ventes de voitures d'occasion. Donc on voit que petit à petit, certains marchés ont nécessité le passage par cet intermédiaire, donc ça n'est pas seulement quelque chose qui est loin et qui est de l'échange d'objets entre particuliers, il se passe des choses fondamentales dans la société parce que tout simplement les gens s'emparent de plateformes et font bouger les choses.
Et donc votre constat, je vous cite, la société avance vite, bien plus vite que certaines élites littéralement débordées, d'où cette idée, ce constat, le titre de votre livre, La déconnexion des élites. Et là, il y a peut-être 2 termes à expliquer, donc celui de la déconnexion et ce que sont les élites, qui elles sont.
Oui, alors pour ce qui est des élites, j'ai pris tout simplement la définition du Larousse, des personnes qui ont une position, occupent une position importante dans une société, par des connaissances, par une position historique, c'est quelque chose d'assez flou, mais qu'on comprend en fait assez bien. Il est vrai aussi que derrière ça, la déconnexion des élites, il y en a deux déconnexions. Il y a une déconnexion, en effet, on comprend bien, qui peut être générationnelle, une déconnexion des élites du XXe siècle, qui ont du mal à comprendre ce qui est en train de se passer avec le numérique. Mais on voit aussi arriver, et c'est en ça que le livre s'appelle « Comment Internet dérange l'ordre établi », il le dérange, il le range déjà différemment, il y a aussi une nouvelle élite qui arrive et qui peut agir de façon très classique, en se déconnectant aussi de la réalité et en pensant que comme ils maîtrisent une technologie, ils peuvent aller très très loin, très vite, en faisant fi à fois de certaines règles.
Et donc, vous décidez à partir de cet article, à partir de ce constat, à partir des échecs aussi que vous rencontrez en sollicitant des chercheurs, etc., pour les faire réagir sur des phénomènes sociaux, sociétaux importants, vous décidez de vous lancer dans une enquête plus vaste, donc ce livre, La déconnexion des élites.
Ben oui, et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais eu en effet beaucoup de retours après cet article, les élites débordées par le numérique. C'est vrai que cet article ne racontait qu'une partie du phénomène. C'était le bas de la société qui pousse avec le numérique.
Et qui souffre peut-être, le bas de la société, qui souffre d'une incompréhension des décideurs, etc.
Oui, qui souffre d'une part, et qui fait en sorte que cette souffrance... Il y a aussi autre chose, il y a un corollaire, c'est que en fait ça bloque la société. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'en France on a pas mal d'idées, on a même beaucoup beaucoup d'idées. Il y a 300 000 startups qui se créent chaque année. Il y a 500 000 auto-entrepreneurs. On en connaît tous qui préféraient ne pas l'être non plus. Donc dans l'auto-entrepreneuriat, il y a différents types de profils, mais il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gens qui veulent faire des choses. Et c'est vrai que toutes ces graines d'innovation n'arrivent pas à pousser non plus en France. Donc il y a une souffrance parce que les gens ne comprennent pas, que les gens du haut n'arrivent pas à saisir ce qui se passe. Et également, d'un point de vue purement économique, il y a un vrai problème de blocage.
Alors pour bien comprendre et pour bien expliquer, d'ailleurs c'est ce que vous faites, ces changements, ces évolutions, chacun de vos chapitres s'empare un petit peu d'un grand domaine de changement, d'évolution, etc. Le premier est intitulé « Cette France du bon coin créative et invisible ». Alors vous expliquez au début du chapitre ce que vous nous avez déjà expliqué sur votre enquête sur le bon coin, sur ce phénomène qui est... pas invisible, parce que des millions de Français s'en emparent, mais en tout cas pas expliqué, pas étudié, pas compris par beaucoup de personnes qui devraient, parce que, comme vous nous l'avez rappelé, ce site d'annonce, en fait, bien entendu, a mis à bas peut-être des modèles économiques d'autres sites d'annonce, comme le particulier à particulier, qui a d'ailleurs depuis arrêté sa version papier pour se concentrer sur Internet, mais il a mis à bas aussi d'autres systèmes d'annonce beaucoup plus établis, comme les annonces d'emploi, les sites d'emploi, etc., donc a remis en cause, et vous développez vers ce qu'on appelle l'économie collaborative.
Oui, tout à fait. C'est en fait, et c'est vrai que derrière ce terme collaboratif, on met beaucoup beaucoup de choses. Donc c'est un peu compliqué de trouver un peu ce qui se passe, parce qu'il y a des grandes différences entre le site La Ruche qui dit oui, par exemple, Blablacar, qui
est un covoiturage, dont on parle beaucoup
Uber,
aujourd'hui,
par exemple.
Alors La Ruche qui dit oui, pour expliquer, c'est un site qui met en relation des consommateurs et des producteurs, en général dans la région environnante, donc des agriculteurs,
voilà.
Etc. Blablacar, c'est du covoiturage.
Qui est déjà présent dans plus d'une dizaine de pays. J'ai du mal à savoir maintenant parce qu'ils sont tellement, et ça va tellement vite. Et puis il y a Airbnb, par exemple, qui est devenu maintenant, avec 600 000 chambres proposées dans le monde, la même taille que la chaîne Hilton, mais c'est de l'hébergement entre particuliers. C'est compliqué de comparer tous ces usages. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que partout dans le monde, les gens s'emparent d'Internet pour proposer des services nouveaux, assez horizontaux, certes, et qui bougent. Qui les bougent les lignes. Donc c'est compliqué pour les grands groupes de comprendre que ces tout petites choses qui sont des initiatives personnelles un peu partout dans le monde peuvent faire quelque chose de très grand très vite, parce que si on arrive très facilement à trouver un financement, ça va très vite, et ensuite faire en sorte de s'adapter. Et c'est compliqué pour un gros paquebot de s'adapter et de tourner et de changer de direction face à ces petites cellules très agiles et qui sont en train de prendre des parts de marché.
L'essayiste américain Jeremy Rifkin était de passage à Paris la semaine dernière. Il présentait un rapport remis à la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Ce rapport s'intitule « L'économie du nouveau monde ». Il a été dirigé par l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, et s'inspire en partie du travail et des recherches de Jeremy Rifkin. Pour l'économiste, il est nécessaire d'entamer ce qu'il appelle une troisième révolution industrielle. On l'écoute au micro de Mélissa Barra.
Nous entrons en ce moment dans l'ère de la troisième révolution industrielle. Une nouvelle convergence entre technologies de la communication, des transports et de l'énergie. D'abord, il y a l'Internet que nous utilisons tous avec nos smartphones et nos ordinateurs. Cet Internet des communications converge avec un autre Internet nouveau, celui de l'énergie renouvelable et digitale. Mais il converge aussi avec un Internet des transports qui est automatisé, développé autour du GPS et qui sera même bientôt sans chauffeur. On est donc en train de créer trois internets en un. Les internets de la communication, de l'énergie et des transports vont changer fondamentalement la façon dont nous gérons l'électricité et nous transportons l'activité économique. C'est la révolution de la génération digitale. Et ces trois internets convergent au sein d'une plateforme nommée l'Internet des objets. On est en train d'intégrer des capteurs à tous les appareils, à toutes les machines, à tout l'électroménager pour permettre à toutes ces machines de communiquer entre elles. Il existe par exemple des capteurs dans les champs de culture qui vont suivre l'avancée des récoltes, puis rapporter des données. Il y a des capteurs dans des usines, dans des entrepôts, dans des maisons intelligentes ou des véhicules intelligents. Et à chaque instant, ils enregistrent des données économiques pour les rendre accessibles à tous. Cela permet à tout le monde d'augmenter sa productivité tout en réduisant le coût marginal de la production, de la consommation et de la distribution de l'activité économique. Certains coûts marginaux vont même se rapprocher de zéro. En ce sens, les biens peuvent être produits et distribués en dehors de l'économie de marché, dans une économie dite de partage. On voit aujourd'hui énormément de jeunes qui investissent l'économie de partage. Prenez par exemple l'Internet des communications. Chaque jour, des millions de jeunes produisent et partagent leur propre musique, leur propre chaîne YouTube, leur propre plateforme de connaissances sur Wikipédia, leur propre blog sur les réseaux sociaux. Et puis ils prennent aussi des cours en ligne. Et tout ça a un coût marginal quasi nul. Que vous produisiez une vidéo sur Internet pour une seule personne ou que vous la produisiez pour 1 milliard, le coût reste le même. Une fois le coût fixe réglé, votre clip YouTube ou votre musique ou votre blog peuvent être partagés avec 1 milliard d'internautes. Aujourd'hui, on a ouvert une brèche dans la barrière qui séparait avant le monde virtuel et le monde physique. Cette brèche correspond à l'Internet des objets. Dans les 10 ou 15 années à venir, les enfants et les petits-enfants de cette génération digitale ne posséderont pas de voiture. Dans les 25 ans, le covoiturage va éliminer 80% des véhicules dans le monde, parce que le covoiturage, c'est l'Internet des transports. On va donc éliminer environ 80% du milliard de véhicules qui alimentent le réchauffement climatique et détruisent la planète. Les 200 millions restants seront des voitures partagées et électriques, à pile à combustible, comme par exemple les Autolib que des milliers de Parisiens utilisent. Ces véhicules vont être produits avec un coût marginal quasi nul et avec des énergies renouvelables. Ce genre de véhicule sera sans chauffeur dans les 10 années à venir. Tout cela, ce sera dans moins de 20 ans. On voit petit à petit émerger un système économique hybride. Ce sera à la fois une économie capitaliste et une économie de partage. Ces deux modèles opèrent ensemble, mais ils sont souvent en conflit. Les jeunes, avec cette économie de partage, vont pouvoir enfin réduire notre empreinte écologique. Plus on partage, moins on utilise. L'heure est venue d'ouvrir la porte aux jeunes qui maîtrisent cette révolution numérique afin qu'ils puissent créer une économie mondiale durable, démocratique, écologique et sophistiquée.
C'était l'essayiste économiste Jérémy Rifkin qui développe en gros son concept de troisième révolution industrielle. Il y a énormément de choses intéressantes qu'il explique et on comprend à travers sa démonstration qui est probablement fidèle à ce qui va se passer puisqu'une grande partie des choses dont il parle se sont déjà passées, à quel point ce qu'il appelle l'économie capitalistique est remise en cause et doit cohabiter avec une nouvelle forme d'économie qu'il appelle lui l'économie du partage. Où il y a finalement assez peu d'argent qui est en jeu.
Il y a cette opposition capitalisme et économie du partage. Alors, quand on rencontre un peu des personnes qui sont en train de travailler sur l'économie collaborative, il y a différentes choses. Il y a des gens, en effet, qui sont tout à fait dans le partage. Il y a des expériences extraordinaires intellectuelles de mise en commun de l'intelligence pour obtenir des plateformes et des avancées au niveau de la programmation informatique, au niveau de plein de choses. Et puis, il y a des personnes qui, par le partage, sont en train de se constituer des grands groupes totalement capitalistiques aussi. Il y a une mutation et un grand changement civilisationnel. C'est une civilisation numérique. C'est pas seulement une révolution numérique et technologique. Il se passe quelque chose dans le lien aux autres. Les gens rentrent en lien différemment les uns avec les autres. La seule façon pour les sociétés, que ce soit les pouvoirs politiques ou les pouvoirs économiques, de comprendre ce qui est en train de se passer, c'est de se faire aider par des gens qui cherchent et qui réfléchissent sur ces sujets-là.
Petite pause dans l'atelier, restez avec nous.
L'atelier des médias.
Atelier des médias, bienvenue. Dans 20 minutes, c'est la chronique de Francis Pisani qui nous relate sa rencontre avec une élite connectée, Manel Saint-Romain de la ville de Barcelone. Nous sommes cette semaine avec Laure Belot, journaliste au Monde et auteur de La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi. Nous avons entendu avant la pause Jérémy Rifkin qui était à Paris il y a quelques jours pour présenter à Ségolène Royal un rapport qui s'intitule L'économie du nouveau monde. Ce rapport a été dirigé par l'ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage. On écoute cette dernière au micro de Mélissa Barra.
Mais il s'agit de dire que nous pourrions être un des pays leaders sur ce qu'on appelle l'économie du nouveau monde, c'est le mariage du digital et de l'environnemental, en gros. Qu'il y a dans notre pays des quantités de réussites formidables au niveau des entreprises, au niveau des collectivités locales, au niveau des citoyens, mais qu'on n'arrive pas à passer un mur de verre. Qu'on n'arrive pas à changer d'échelle. Et tout l'objet du rapport a été d'abord de comprendre pourquoi et ensuite comment on faisait pour le passer. Et donc nous proposons des réformes structurelles mais qui sont très largement dans les mains de la société civile, comme par exemple la constitution d'un mouvement des entreprises de la nouvelle économie, comme par exemple une cartographie géante, c'est-à-dire une immense plateforme permettant de recueillir toutes les initiatives et tous les acteurs, comme par exemple une marque, comme ça existe pour la French Tech, on est la même chose pour l'économie du nouveau monde. Voilà, tout ça ne dépend pas de l'État. Et puis il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'État, comme des modifications de la fiscalité, le fait de faire payer cher quand vous êtes mauvais pour le bien commun et au contraire être avantagé quand vous êtes bon pour le bien commun. Des tas de propositions pour aider les chercheurs à devenir des start-up, les start-up à devenir des PME, les PME à devenir des ETI, etc. Créer les passerelles entre les activités de l'ancien monde et les activités du nouveau monde. On voit bien que Internet, pour dire les choses simplement, est en train de révolutionner le monde. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec Uber. Hein. C'est du reste la raison pour laquelle, dans le rapport, nous proposons aussi un institut de la transition dont un des objectifs serait le règlement de ce type de conflit. Donc il y a évidemment cela, mais au-delà, il y a la possibilité, avec moins de ressources, de développer un modèle économique où les gens puissent trouver de l'emploi et surtout qui remettent, et ça c'est un élément très fort de notre rapport, le bien-être et l'humain au cœur de l'activité économique.
Quelle est la part des technologies dans...
Elle est importante, mais il n'y a pas que ça. Nous montrons que dans les technologies, elles sont généralement très encouragées et qu'il y a peu de place dans notre système économique aujourd'hui, notre système d'encouragement, pour les innovations qui sont sociétales, pour les innovations comportementales, pour les innovations organisationnelles. BlaBlaCar, où nous sommes ce matin, est un formidable exemple d'un changement, non pas technologique, mais comportemental. Airbnb, c'est exactement la même chose. BlaBlaCar, c'est français. Airbnb, non. Mais BlaBlaCar, c'est français. Et il y en a plein d'autres. Donc, nous sommes un peuple créatif. Et ce que nous avons voulu dire, c'est que il faut absolument que nous arrivions collectivement à permettre à cette création de se faire chez nous, pour que ce soit les emplois qui s'y trouvent et les activités économiques qui s'y trouvent. Bon, il est de fait que bien souvent, malheureusement, c'est l'État qui bloque. Et c'est les initiatives individuelles, y compris des collectivités locales, qui cherchent à se développer et qui n'y arrivent pas. Donc ce que nous demandons, c'est à l'État d'être beaucoup plus ouvert. La loi sur la transition énergétique va évidemment dans la bonne direction, avec beaucoup d'incitations, beaucoup de mesures nouvelles. Ce que nous appelons, nous, c'est aller plus loin, et notamment dans le domaine énergétique où il y a une révolution à faire. Globalement, il faut arrêter avec ce sas-croussin nucléaire et laisser la France devenir, comme les autres pays du monde, un grand pays d'énergie renouvelable.
Merci beaucoup Corinne Lepage.
Merci à vous.
On comprend Laure Belot en écoutant donc l'ancienne ministre Corinne Lepage qui a remis un rapport à la ministre de l'Environnement Ségolène Royal que ce constat de mutation, de changement, etc. et que vous avez fait aussi avec l'arrivée de l'économie du partage, avec l'arrivée aussi de beaucoup d'autres choses dont on va parler, il est partagé par énormément de gens. Le constat aussi qu'il y a des choses qui bloquent, alors Corinne Lepage insiste sur le blocage étatique, elle propose des solutions, il est partagé aussi, mais ce qu'on comprend aussi c'est que les décideurs sont sont en train de s'informer, sont en train de demander à des experts, des rapports, des études pour comprendre. Donc on sent que les choses sont en train de bouger.
Oui, on sent que les choses sont en train de bouger, mais c'est très compliqué. C'est un changement personnel très fort, en fait. Quand on parle de ces changements civilisationnels, ça veut dire qu'en fait, on se rend compte aussi que ces usages qui sont en train de jaillir un peu partout, les gens qui dirigent des entreprises ou qui dirigent des services peuvent ne pas s'en servir du tout. Donc c'est compliqué de comprendre l'ampleur d'un phénomène quand on n'en est pas un propre usager. Donc en effet, il y a des problèmes sûrement en effet de rigidité étatique, il y a des problèmes de financement. On voit bien, et ça on peut l'écrire, je l'écris en effet dans le livre, que c'est vrai qu'il y a un problème d'appétence au risque. C'est qu'en fait, la grille de lecture pour essayer de comprendre les nouvelles bourses, c'est des entreprises qui vont pas gagner de l'argent très vite ou tout de suite. Donc il faut comprendre la logique du numérique pour investir dedans. Il y a aussi des enjeux de culture, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une certaine diversité pour comprendre ce qui est en train de se passer. On a des organisations dans les entreprises ou dans les administrations qui sont pyramidales. Or, c'est intéressant de noter que pour les enquêtes, j'ai rencontré des gens qui ont été très très proches de certains grands dirigeants du numérique, que ce soit Bill Gates, Mark Zuckerberg, donc Bill Gates pour Microsoft, Mark Zuckerberg pour Facebook. On m'a dit des choses très intéressantes en disant ces gens-là connaissent leurs limites et s'entourent de gens qui sont aussi compétents si ce n'est plus qu'eux. C'est-à-dire qu'on s'en bien compte que non seulement l'horizontalité est dans les usages partout dans la planète, mais on se rend bien compte qu'à plusieurs, on comprend mieux ce qui est en train de se passer. Donc la structure pyramidale classique d'une société, qui est de se dire qu'on a un leader qui comprend tout et qui va donner le cap, c'est extrêmement compliqué actuellement de le faire dans des entreprises ou dans des administrations. Donc ça veut dire qu'il faut changer les cultures, accepter que des gens qui ont un pas de côté dans une entreprise vont avoir des idées qui vont être utiles pour l'entreprise, avec des questions centrales. C'est à qui ces personnes-là, qui sont un peu plus originales ou plus créatives ou qui sentent les signaux faibles, réfèrent dans les entreprises. Donc on voit bien que au-delà des constats qui sont extrêmement intéressants, qui sont macroéconomiques, en interne, dans les structures entrepreneuriales ou administratives, c'est une révolution personnelle, intime, que chacun doit réaliser.
Laure Belot, on comprend avec ces témoignages, on comprend aussi en vivant au XXIe siècle que ce qu'on appelle l'économie du partage, on peut l'appeler comme on veut, ou en tout cas l'arrivée du numérique, l'arrivée du téléphone intelligent dans nos poches, change énormément de choses au quotidien des gens, change énormément de choses à l'économie, à notre manière de consommer, etc. Mais pour bien expliquer les changements et pour bien expliquer tous les secteurs qui sont touchés, vous allez plus loin, vous parlez de l'éducation, vous parlez aussi de la banque. Je veux bien qu'on s'arrête sur la manière dont les nouveaux usages sont en train de bousculer ces secteurs. Et l'éducation, vous allez jusqu'à citer des personnes qui disent que peut-être que comme de grands journaux ont dû fermer face à la concurrence de sites internet, peut-être qu'un jour, dans pas très longtemps, de grandes universités vont devoir fermer face à la concurrence aussi des nouveaux modes d'apprentissage.
Alors c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui sont en plein dedans qui le disent. C'est, on se demande en effet comment le savoir va se transmettre, alors même que le savoir devient accessible de partout sur la planète, pour peu qu'on comprenne la langue. Donc c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'éducation, la grande innovation n'est pas venue des grandes institutions académiques. C'est venu de Cannes, avec la Cannes Academy.
Salman Khan, donc voilà. Lui, c'est une belle histoire. Hein.
C'est
donc,
une très belle histoire.
C'est un jeune homme qui a décidé d'enseigner les mathématiques à sa nièce, c'est ça, et qui s'est retrouvé à faire des petits exercices ou des petites démonstrations en ligne, en utilisant des outils en ligne. Et en fait, il s'est rendu compte que ça marchait très bien, ça a essaimé autour de sa nièce, et puis il a décidé de le faire pour toutes sortes de domaines.
Voilà, et maintenant c'est utilisé
par des... C'est devenu une fondation.
Voilà, c'est devenu une fondation, et c'est surtout que c'est utilisé en fait, et c'est utilisé dans des cours. Il y a la même chose pour Sugata Mitra avec l'école du nuage qui vient d'Inde. On voit qu'il y a différentes initiatives, et on voit derrière ça, je viens de faire une grande enquête sur l'Afrique, que des personnes s'en emparent de ça. J'ai rencontré quelqu'un qui a fait justement une tablette pour qui s'appelle Cardiopad, qui est un gars extraordinaire, Arthur Zhang.
A déjà reçu dans l'atelier
ce gars-là médias. Était quand même ingénieur soft. Il s'est rendu compte que pour faire sa tablette, il devait apprendre l'électronique. Il a été trouvé sur Google un MOOC, donc un cours en ligne en anglais qui était donné depuis l'Inde. Et pendant un an, il s'est formé à l'électronique en Afrique en se connectant avec l'Inde. Et ensuite, il a construit sa tablette. Ça, ce sont des possibles. Alors en effet, qui ne concernent pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'a pas non plus l'énergie et la volonté de le faire. Mais ça montre juste que actuellement, c'est un outil pour que quand les gens ont envie de s'en emparer pour faire des choses, ils peuvent le faire. Et ça montre aussi, et c'est le cas en Afrique, que derrière ça, les élites ou les personnes qui ont le pouvoir doivent laisser la main et donc partager le pouvoir d'une certaine façon avec les gens qui prennent leur destin en main pour faire en sorte que ces pousses jaillissent. Donc cette déconnexion, elle est aussi sur l'acceptation qu'il va falloir lâcher un peu de lest par rapport à ce qui est en train de se passer jusqu'à présent. Et ça, c'est extrêmement compliqué dans tous les pays.
Donc ça, c'est pour l'éducation, pour la banque aussi. Alors, dans l'émission, on a souvent parlé de l'arrivée des acteurs mobiles, comme au Kenya, etc., pour des services financiers dans des zones où il n'y en avait jamais eu, où l'argent circule beaucoup plus facilement. Ça arrive aussi ici. Vous donnez l'exemple d'un site français qui s'appelle Prêt d'Union, qui permet des prêts entre particuliers et qui fonctionne.
Oui, et qui fonctionne très bien, et surtout qui a été fondé par deux banquiers. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir que derrière ça... On parle de sharing economy, c'est juste une économie qui utilise des nouveaux moyens numériques. Là, le sharing, il est pas vraiment, il est intéressant, bien sûr, mais c'est aussi des gens qui ont un savoir, qui connaissent la banque et qui mettent en application leur savoir en utilisant des nouvelles plateformes technologiques. Donc, bien entendu, c'est extrêmement intéressant de voir que les gens se prêtent entre eux, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se prêtent entre eux parce qu'ils n'ont pas de conditions financières suffisamment intéressantes auprès des banques. Donc, c'est simplement que face à des situations, le financement actuellement entre personnes ou le crowdfunding, où on fait appel à la foule pour financer un projet, est une solution pour financer un projet personnel, de vie personnelle, ou une initiative d'innovation pour même créer des entreprises. Maintenant, il y a l'asset crowdfunding où on est en train de financer également des entreprises. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas. Ce qu'on voit seulement, c'est que tout le monde est en train de tester des moyens de désintermédier pour faire en sorte d'avoir accès à de l'argent alors qu'ils ont du mal à l'avoir avec des banques traditionnelles.
Alors, on pourrait énumérer à l'infini le nombre de secteurs vitaux essentiels qui sont en train d'être bouleversés. En fait, c'est toute l'organisation sociale qui est en train de changer. Et parallèlement, on l'a déjà un peu évoqué rapidement, mais vous y consacrez un chapitre, vous constatez que toute cette évolution est pratiquement impensée. C'est-à-dire que les sociologues sont très très peu nombreux à s'en emparer parce que les anciens systèmes de sélection, les anciens systèmes qui vont déterminer sur quel sujet on va travailler, etc., sont rétifs en fait et ne s'adaptent pas à ces avancées, etc., etc. Donc, vous le regrettez en fait, mais vous avez dans vos enquêtes notamment beaucoup de mal à trouver des personnes pour commenter, pour expliquer, pour donner un peu de recul sur ces évolutions.
Alors bien sûr, il en existe des gens qui pensent le monde qui est en train de venir, mais ils sont peu nombreux par rapport aux autres. Alors bien sûr, on ne demande pas à ce que la recherche soit peuplée de défricheurs, mais c'est vrai que d'une part, d'un point de vue méthodologique, le fait que ce soit des recherches souvent incrémentales en partant d'un matériau qu'un matériau déjà existant, pour tout ce qui est émergent, le matériau n'existe pas. Et puis il est vrai qu'il y a autre chose, c'est que nous sommes dans une période de transversalité. Et pour comprendre le monde qui vient, on a besoin de comprendre en effet un peu de technologie, un peu de sociologie, un peu de philosophie. Il faut être des fois pluridisciplinaire ou favoriser les rencontres pluridisciplinaires pour pouvoir dire des choses pertinentes. Et nous sommes un peu comme au siècle des Lumières, nous avons réellement besoin de compétences multiples pour comprendre ce qui est en train d'arriver.
Le 18 juin dernier, le Conseil national du numérique, qui est donc cet organe consultatif créé en 2011, a remis au Premier ministre français un rapport de synthèse et des propositions issues d'ailleurs d'un débat public participatif, extrait du discours de présentation de ce document qui s'intitule « Ambition numérique » par le président du CNUM, c'est comme ça qu'on appelle le Conseil national du numérique, Benoît Thiolin.
Il est temps d'orienter nos politiques publiques en faveur de l'économie de l'innovation. Le numérique marque un retour au pouvoir, je dirais, des innovateurs et aux créatifs en tout genre. Dans une époque marquée par des cycles d'innovation qui sont aujourd'hui exponentiels, le numérique renoue avec la tradition de l'entrepreneuriat de la fin du 19e siècle, où les grands capitaines d'industrie étaient des ingénieurs, étaient des inventeurs, Gustave Eiffel, Edison, Renault. Parce que le modèle des start-up repose souvent sur la créativité de leurs dirigeants et la commercialisation d'un prototype technologique innovant, ils remettent en cause la course à la performance financière sur l'esprit entrepreneurial qui a cours depuis les années 80. Il nous faut nous appuyer sur cette avant-garde, ce renouveau des communautés agissantes, insuffler ces mouvements disruptifs dans les entreprises, les organisations, l'éducation, l'enseignement supérieur, promouvoir ces nouveaux modes de partage et d'horizontalité. Dans cette nouvelle économie de l'innovation, les questions de financement des start-up et plus généralement de l'innovation sont centrales. Dans notre cadre actuel, Twitter ou Steve Jobs n'auraient pas été éligibles au crédit impôt recherche. Pour citer Edgar Morin, Il n'y a jamais de consensus préalable à l'innovation. Toute innovation transformatrice est d'abord une déviance. Cette idée doit nous conduire à bouleverser les ordres établis et valoriser tout autant dans nos politiques publiques l'innovation sociale, l'innovation organisationnelle, l'innovation dans les modèles d'affaires. Nous faisons des propositions très concrètes en ce sens. Ce changement culturel entraîne avec lui les acteurs clés du financement et de la croissance. Je pense aux banques, investisseurs institutionnels publics et privés, réseaux d'analystes financiers, PME, grandes entreprises. L'écosystème a évolué depuis notre prise de mandat. Il s'agit, je crois, d'une période particulière. La révolution numérique s'accélère. Il y a 3 ans, aucun patron du CAC 40 ne semblait considérer Google comme un concurrent. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les consciences ont changé et les entreprises se sont mises à innover. Les 34 plans, désormais industrie du futur, y ont aidé. L'impulsion donnée par l'État doit être saluée. Notre FinTech est singulière. Elle incarne à la fois la puissance industrielle française, avec la structuration de filières dans la robotique, les objets connectés, la santé, et le dynamisme des nouvelles générations qui souvent, déconcertées par l'ordre établi, développent des usages où sont mêlés consommation, innovation et action citoyenne. Je pense au succès du financement participatif dont le gouvernement a permis le développement, de la consommation collaborative, de l'économie du partage, de l'éducation solidaire avec des pépites comme Blablacar, la ruche qui dit oui, dont vous savez qu'elle vient d'annoncer une levée de fonds record, Simplon, la mutinerie, on pourrait multiplier les exemples. Ces innovations, pour la plupart françaises, sont portées par des entrepreneurs animés par l'envie de travailler différemment et portées par des valeurs que je dirais presque militantes. Recréer du lien social, améliorer notre bien-être au travail, protéger notre environnement, créer autrement, s'ouvrir à de nouvelles formes de production de richesses économiques et sociales. C'est cette singularité française, mais aussi européenne, que nous devons faire rayonner.
C'était Benoît Thiolin lors du discours de présentation du rapport du Conseil national du numérique qui s'appelle « Ambition numérique ». C'est très intéressant parce qu'il reprend énormément d'idées qu'on retrouve dans votre livre, Laure Belot. Et ce qui est intéressant, c'est que on sent quand même, au-delà de son discours ou en filigrane, que c'est bien au-delà de l'économie et des entreprises qu'il faut repenser les choses. Il faut être déviant, il faut favoriser les gens qui font un pas de côté, ce qu'on appelle les hackers. Pendant longtemps, on les dénigrait, maintenant on les valorise, etc., etc.
Oui, en effet, les hackers ou tout simplement les défricheurs, les gens qui cherchent les signaux faibles, les gens qui réfléchissent un peu en dehors des cases. Et c'est vrai que toute organisation matricielle dans une entreprise ou une administration n'a pas vraiment envie d'eux. Ces personnes-là, des têtes qui dépassent, on les coupe. Et derrière ça, le problème, c'est qu'on les coupe et après, on n'a plus d'idées. Et je vois bien que les interrogations, c'est des interrogations qui sont de l'ordre de comment on fait pour pivoter pour un grand groupe. Quand on est agile et quand on a une petite structure, c'est bien simple. Le pivot, c'est un mot à la mode, donc on dit on pivote. Alors quand on est une start-up et qu'on n'a pas trouvé le bon modèle, on pivote sur un autre modèle. Bon, mais quand on est un grand groupe, comment on pivote? Est-ce que c'est possible? Comment on le fait? Alors, moi j'avais rencontré Jack Welch, qui était à la tête de General Electric. Il avait 300 000 salariés. Lui, pour comprendre Internet, il y a plus de 15 ans maintenant, il avait fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Il avait pris 10 personnes qui étaient très très bonnes dans leur domaine internet. Il avait mis chaque personne du board de la direction avec un petit jeune pour qu'ils aient 3 heures par semaine de cours pour comprendre ce qui était en train de se passer. C'est de cet ordre-là de la révolution qui est en train de se passer qu'il faut comprendre. C'est que ça nécessite un travail personnel, une remise en question personnelle qui doit être au-delà des aspects de pouvoir et d'image. On doit réellement comprendre ce qui est en train de se passer et c'est extrêmement compliqué.
La planète entière, je vous cite, s'est emparée du numérique. Le coût de navigation sur le web n'a pas augmenté, bien au contraire. Le prix des appareils les plus simples pour accéder au réseau ne cesse de baisser. Mais sans nous en rendre compte, nous sommes devenus la valeur d'échange de cette navigation gratuite. La valeur marchande qui permet notre accès mondial au réseau est devenue nous-mêmes. Je cite cette phrase parce que votre livre n'est pas naïf non plus. Il s'agit pas d'embarquer dans un train en marche qui nous emmène vers de beaux lendemains. Il y a énormément de questions fondamentales qui sont posées par le numérique, notamment le fait qu'il est en train de détruire des milliers, peut-être des millions d'emplois dans le monde, notamment aussi que des géants, Google, etc., ont peut-être plus de pouvoir aujourd'hui que des États. Et l'enjeu n'est pas d'épouser ces nouvelles réalités pour y participer, etc. C'est aussi pour le co-créer, pour co-créer ce futur et ne pas laisser des personnes mal intentionnées ou des personnes qui ont des intérêts divergents des nôtres le construire tout seul et le subir par la suite. C'est ça.
Quels que soient les intérêts des uns et des autres, c'est important que tout le monde soit au courant de ce qui se passe, en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'un tel ou un tel sont en train de faire des choses qui sont illégales ou qui ne vont pas dans le bon sens. Mais si on ne sait pas ce qui se passe, ça pose un problème. On se rend compte, quand vous parlez des données actuellement personnelles, 80% à 90% des données actuellement sont inspirées par les États-Unis.
Bon, c'est donc, vous l'expliquez, certains de vos témoins l'expliquent, c'est une nouvelle forme de colonialisme.
Voilà, en tout cas, nous, c'est la première fois que la connaissance intime des citoyens appartient à des groupes privés, et qui plus est, des groupes privés qui en plus sont dans d'autres pays. Bon, avec peut-être des rapports avec des gouvernements qui peuvent être aussi assez intimes ou assez compliqués. Donc tout cela pose des questions géopolitiques très fortes. Donc il faut comprendre ce qui se passe.
Merci Laure Belot. La déconnexion des élites, comment Internet dérange l'ordre établi, c'est aux éditions des Arènes. On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien et des informations supplémentaires. À bientôt.
À bientôt, merci.
RFI.
Je suis sûr d'une chose. Twitter, les blogs, les médias enrichis, toutes ces choses n'ont aucune profondeur. Elles ne dureront pas. Et je refuse de me laisser distraire par ce qui est à la mode.
L'Atelier des médias, une web-émission participative pour la communauté des nouveaux médias.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va ?
Très bien, et toi ?
Ça va très bien, merci beaucoup. Francis, tu as réalisé récemment un entretien avec Manel Sandroma, qui a été responsable pendant 4 ans des technologies de l'information pour la ville de Barcelone. Que t'a-t-il raconté ?
Je voudrais d'abord un peu expliquer qui c'est. Il a été responsable de la technologie de la ville de Barcelone entre 2011 et 2015, et il était aux meilleures loges de ce fait pour, selon ses termes, apprendre énormément de choses sur ces animaux fascinants que sont les villes. Je l'ai interviewé pour le journal Le Monde le 15 juin, le jour même où la nouvelle équipe municipale, issue du mouvement des indignés, s'installait à la mairie. Le point de départ de notre conversation est que, pour lui, les villes occupent une place centrale et qu'elles vont jouer un rôle plus important encore dans la gestion de tout ce qui est public, de ce qui est commun, de ce qui est l'objet de la politique. Il estime que les problèmes de l'espèce humaine doivent se régler au niveau planétaire, le climat par exemple, mais que tout le reste doit être abordé au niveau des villes qui peuvent agir beaucoup plus efficacement que les États. Cela implique, bien entendu, une redistribution des pouvoirs. Il faudra leur donner beaucoup plus de latitude et ce sera le travail de toute une génération.
Et j'imagine que tu lui as demandé ce qui fait de Barcelone une ville intelligente.
Bien sûr, et sa réponse m'a beaucoup plu, même si elle est classique. Il n'y a pas de ville intelligente, les personnes et les communautés le sont. Tout au long de son histoire, il estime que Barcelone a construit une ville à la mesure de l'homme et qu'elle utilise désormais la technologie pour donner de la puissance à cette intelligence humaine. Comme exemple, il cite la création de Vincles, une plateforme de réseau personnel de confiance pour les personnes âgées qui vivent seules. À un niveau plus technologique, il a mentionné la création du concept de système d'exploitation de la ville, City OS en anglais, avec le développement de Sentilo. Il s'agit d'une plateforme ouverte qui permet à toutes les villes qui l'adoptent de partager entre elles toutes les données recueillies par des capteurs installés par leurs différents services municipaux, qu'il s'agisse de la pollution sonore ou de la gestion des ordures, par exemple.
Quel bilan tire-t-il de son activité ?
Sa principale satisfaction est d'avoir introduit la technologie dans le débat politique et d'avoir contribué à ce que les gens cessent de la voir seulement comme un outil ou comme un service. La technologie, pour Sandroma, c'est de la culture, c'est un instrument de socialisation. Mais je lui ai aussi demandé en quoi il avait échoué. Et sa réponse, que je cite textuellement, est assez claire. En ce que nous n'avons pas su générer de consensus politique autour de ces questions. Détail savoureux, il m'a précisé que le terme « smart city » ne lui plaît pas du tout. « C'est comme le nom de ma femme », m'a-t-il dit. Elle s'appelle Piedad, ce qui veut dire « piété » en espagnol, et pourtant, je l'adore.
Il n'aime pas le terme « smart city », ville intelligente, ville maligne, mais comment fait-il face aux grandes entreprises qui le mettent en avant ?
Sa réponse, en deux temps, est claire. Nous en avons besoin, mais elles ne doivent pas décider. Et selon lui, c'est l'absence de stratégie et de discours des villes qui leur donne un rôle trop important. Et il rappelle ce qu'on oublie trop souvent, c'est que dans 50 ans, Barcelone sera toujours là, ce qui n'est pas nécessairement le cas de Google, de Cisco, d'IBM ou de Microsoft. Je lui ai demandé, bien sûr, quel rôle il voyait pour la société civile et la participation citoyenne. Il estime que les nouveaux outils technologiques révolutionnent la participation des citoyens, que le web peut et va changer la manière de gouverner les villes. J'espère même, ajoute-t-il, et je le cite littéralement, que ces technologies nous aideront à transformer la politique, non pas celle qu'on écrit avec le petit p de parti, mais avec le grand P de police, le terme grec pour parler de la ville.
Quelle conclusion tires-tu de cet entretien ?
Comme tu le vois, il fait partie, Manuel Saint-Romain fait partie des exceptions dans le phénomène dont parle de façon si convaincante Laure Bello. C'est amusant d'en parler dans une émission dont elle est l'invitée. Mais au fond, je trouve que cela renforce ce qu'elle nous explique dans la mesure où ça nous montre tout ce que des élites connectées pourraient faire et tout ce que nous perdons quand elles ne le sont pas.
Merci Francis Pisani, tes explications sont éclairantes et d'ailleurs au début de l'émission j'ai parlé du problème Uberpop en France et des positions du gouvernement qui peuvent être inquiétantes à certains titres. Finalement c'est vrai qu'Uberpop c'est aussi un problème de ville avant tout.
Absolument. Et d'ailleurs, je voudrais en parler parce que... Mais on en parlera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce que je pense que le gouvernement a pris une décision particulièrement dramatique pour un gouvernement de gauche en attaquant la partie la plus sociale de ce que nous propose Uber. Mais on en parlera.
Merci en tout cas Francis Pisani. On peut retrouver toutes tes contributions sur ton blog francispisani.net, sur ton blog de l'Atelier des médias et ton entretien avec Manuel Saint-Romain est aussi à lire sur Le Monde. À bientôt Francis.
À très bientôt, Ziane.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 388 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Simon De Creuse et Ziad Malouf. Pour nous réentendre, c'est sur RFI.fr, soundcloud.com et sur toute bonne application de podcast. Si vous nous écoutez alors que vous êtes en train de courir, de marcher, de vous déplacer dans la ville, dans la campagne, vous faites bien. Partagez la pratique du podcast autour de vous et n'hésitez pas à commenter notre émission sur les différents réseaux de partage audio comme iTunes par exemple. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini ?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.